à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 17 août 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Edrissa Sedulia. Tout d'abord, les titres. Appel au calme de Washington après la proclamation des résultats de la présidentielle au Kenya. En RDC, nouvelle attaque meurtrière contre un site minier en Ituri dans le nord-est du pays. Plus de 150 enfants morts dans une épidémie de rougeole au Zimbabwe. Le président russe Vladimir Poutine accuse les États-Unis de faire traîner le conflit en Ukraine. Au Brésil, le début de la campagne pour la présidentielle d'octobre entre Jair Bolsonaro et Luiz Inácio da Silva. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les États-Unis ont appelé hier au calme et à la patience au Kenya au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle qui donne William Ruto vainqueur, mais sont contestés par son rival Raila Odinga. Les précisions de Michel Joseph.
Nous appelons toutes les parties concernées à œuvrer ensemble pacifiquement à la résolution des questions restantes et à le faire à travers les mécanismes de règlement des litiges existants, a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price. Il a également exhorté lors d'un point de presse les dirigeants de tous les partis politiques à continuer à appeler leurs partisans à ne pas recourir à la violence. Lundi soir, 6 jours après l'élection du 9 août, une commission électorale secouée de divisions internes a déclaré le vice-président sortant, William Ruto, vainqueur avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. William Ruto, qui tenait dans cette élection le rôle de challenger, devient ainsi le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Mardi, son rival Raila Odinga a rejeté les résultats de l'élection, les qualifiant de parodie et promettant d'engager tous les recours légaux à sa disposition.
En République démocratique du Congo, une nouvelle attaque de site d'exploitation d'or attribuée à des miliciens a fait 16 morts mardi matin en Ituri, dans le nord-est du pays, ont annoncé des sources locales. Rosine Monezero.
Des miliciens Codeco ont fait irruption au site minier situé au village Sombo, à une quarantaine de kilomètres du lieu d'une autre attaque la semaine dernière, a déclaré Assaninga Diolé, président de la société civile de la chefferie de Mambisa. Ils ont tué des civils, en majorité des agriculteurs, et ceux qui travaillent dans ce site minier, a-t-il ajouté, affirmant avoir personnellement vu les corps de 12 civils et de 4 militaires. Une précédente attaque du même site d'exploitation artisanale de l'or avait fait 4 morts il y a moins d'une semaine dans le territoire de Djougou, où 2 ressortissants chinois ont également été pris en otage. Dans les 2 cas, la milice Codeco est pointée du doigt. Cette milice est considérée comme l'une des plus meurtrières de l'est de la RDC. En plus des civils et des militaires, les miliciens Codeco s'attaquent également aux déplacés et à des humanitaires. L'Ituri et la province voisine du Nord Kivu sont placés sous état de siège depuis mai 2021.
Une blogueuse marocaine a été condamnée lundi à 2 ans de prison ferme pour atteinte à la religion musulmane après avoir posté des publications sur Facebook jugées offensantes envers l'islam. C'est ce qu'a annoncé mardi à l'AFP son frère, ajoutant qu'elle a l'intention d'interjeter appel. Fatima Karim, 39 ans, avait été interrogée par la police le 15 juillet et était en détention depuis, a précisé Bouaza Karim. Une épidémie de rougeole au Zimbabwe a tué au moins 157 enfants, avec plus de 2000 infections signalées dans le pays, a déclaré le gouvernement mardi. Les cas se multiplient rapidement dans ce pays depuis l'apparition du premier début août, les décès signalés ayant presque doublé en moins d'une semaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi les États-Unis de faire traîner le conflit en Ukraine que Moscou a envahie il y a presque 6 mois. Selon lui, Washington chercherait à déstabiliser le monde et il a évoqué la récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi. Pour M. Poutine, les États-Unis agissent de la même manière en cultivant la possibilité d'un conflit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Par ailleurs, rencontre demain à Lviv, en Ukraine, entre le président Volodymyr Zelensky et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Ce sera en présence du patron de l'ONU, Antonio Guterres, et il sera question de l'exportation de céréales depuis les ports ukrainiens. Abdourahman Dia.
Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a précisé que c'est à l'invitation du président Zelensky qu'Antonio Guterres se rendra en Ukraine. La rencontre permettra d'examiner la mise en œuvre de l'accord international signé en juillet à Istanbul pour permettre les exportations de céréales depuis l'Ukraine, accord dont la Turquie est un élément clé selon l'ONU. La nécessité d'une solution politique au conflit, la question de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, contrôlée par les troupes russes, seront également abordées. Vendredi, Antonio Guterres se rendra à Odessa, un des 3 ports ukrainiens utilisés dans le cadre de l'accord international qui a déjà permis le départ de 21 bateaux chargés notamment de maïs et de blé. Il terminera ce déplacement à Istanbul en Turquie samedi pour visiter le centre de coordination conjointe chargé de superviser l'accord. Le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales ukrainiennes a quitté ce mardi le port de Pivdeni dans le sud de l'Ukraine avec quelques 23 000 tonnes en direction de la Corne de l'Afrique.
Pour sa part, l'USAID, l'Agence américaine d'aide au développement, a précisé dans un communiqué mardi avoir fourni 68 millions de dollars au PAM, le Programme alimentaire mondial de l'ONU, pour l'achat, le transport et le stockage de 150 000 tonnes de blé ukrainien. Au Brésil, la course pour la présidentielle du 2 octobre a officiellement été ouverte hier avec un duel sans merci entre le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, et l'ancien président de gauche, Luiz Inácio de Silva, mettant en évidence les profondes divisions du géant sud-américain. Le point avec Nanit Talani.
Jair Bolsonaro, 67 ans, a lancé sa campagne avec un meeting à Ruiz de Fora, une petite ville du sud-est où un agresseur l'avait poignardé pendant sa campagne de 2018. « C'est ici que le Créateur a sauvé ma vie afin que je puisse donner le meilleur de moi-même pour notre nation », a déclaré un Bolsonaro ému à ses partisans. Le Messie, comme on le surnomme, est revenu sur les thèmes du christianisme, les valeurs familiales et l'opposition au communisme. Il a ensuite passé le micro à la première dame, Michelle Bolsonaro, une fervente chrétienne évangélique qui a qualifié sa campagne de nouveau miracle de Dieu, puis la foule a scandé « Lula, voleur, ta place est en prison ». Luiz Inácio da Lula, 76 ans, va commencer sa campagne par la visite d'une usine Volkswagen à São Bernardo do Campo, dans le cœur industriel de l'État de São Paulo, où il a commencé sa carrière politique en tant que dirigeant syndical. L'ex-président est tombé en disgrâce après une vaste enquête sur la corruption centrée sur la compagnie pétrolière publique Petrobras. La Cour suprême a annulé la condamnation qu'il avait envoyée en prison. La sécurité a été renforcée autour des 2 candidats qui apparaissent toujours lors d'événements en gilet pare-balles. Si aucun candidat ne remporte plus de 50% des voix le 2 octobre, un second tour aura lieu le 30 octobre.
Comme prévu par les sondages, la députée américaine Liz Cheney, porte-voix des républicains anti-Trump, a essuyé mardi une cuisante défaite lors de sa primaire républicaine dans le Wyoming pour un siège à la Chambre des représentants face à une candidate soutenue par l'ancien président Donald Trump. L'une des principales bêtes noires de M. Trump s'est de nouveau engagée mardi à tout faire pour que ce dernier n'accède plus jamais à la Maison-Blanche. Ici à Washington, le président Joe Biden a promulgué mardi son vaste plan d'investissement sur le climat et la santé, apportant à son camp démocrate une victoire politique importante à moins de 3 mois d'élections législatives déterminantes. Plus gros investissements jamais adoptés aux États-Unis dans la lutte contre le changement climatique, le texte prévoit notamment des incitations financières destinées à faire évoluer l'économie américaine vers les énergies renouvelables, mais limite aussi le prix de certains médicaments et crée un taux d'imposition minimal sur les grosses entreprises. La Minute Éco, Nanik Talani.
Le Bénin et la Banque mondiale ont signé le mois dernier un accord de 153 362 746 600 francs CFA pour le programme Aquavie visant l'accès universel à l'eau potable. Il permettra de construire 80 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages pour desservir plus de 1 200 000 personnes dans 404 villages dans tous les départements du pays, hormis le littoral, grâce à 2700 bornes fontaines et 28 000 branchements privés. Au São Tomé et Principe, le projet Priassa a permis de renforcer l'agriculture et la pisciculture en modernisant les grands sites de débarquement de la pêche artisanale, en réhabilitant les routes et 10 systèmes d'irrigation et en créant 6 unités de transformation agricole. Il est financé à 7 millions de dollars par le Fonds africain de développement. Les secteurs agricoles et piscicoles pèsent au moins pour 20% au PIB et pour 80% aux revenus d'exportation du pays. Ils emploient plus de 60% de la population active. Terminons par la société américaine Redwire qui veut lancer la première serre spatiale commerciale l'année prochaine pour stimuler la recherche sur la production agricole en dehors de la Terre en améliorant la capacité de l'humanité à faire pousser des cultures dans l'espace et aussi soutenir les missions d'exploration. Ces produits comprennent un système de croissance de plantes entièrement automatisé pour mener des recherches dans la station spatiale internationale.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Tennis pour commencer, Serena Williams battue au premier tour de Cincinnati.
Oui, l'Américaine a été balayée au premier tour du tournoi WTA de Cincinnati par la Britannique Emma Raducanu, 6-4-6-0. Serena Williams, qui a annoncé à 40 ans sa retraite après l'US Open à la fin du mois, a quitté rapidement le court après sa défaite sans un mot aux journalistes. Elle a pu jouer en 2022 avec 4 matchs seulement en raison d'une blessure. Sa dernière victoire en simple sur le circuit WTA remonte au 4 juillet 2021. Lors d'un troisième tour victorieux à Roland-Garros, quelques semaines avant de déclarer forfait au premier tour de Wimbledon en raison d'une blessure à une jambe. Elle s'est ensuite absentée pendant près d'un an, ne faisant son retour en simple que fin juin à Wimbledon où elle a été battue d'entrée. Sa sœur aînée, Venus Williams, a aussi perdu 7-5-6-1 face à la Tchèque Karolina Pliskova, ancienne numéro 1 mondiale.
Mondial 2022, le match Brésil-Argentine comptant pour les qualifications est annulé.
Initialement reporté au 22 septembre et dépourvu d'enjeu, les deux équipes étant qualifiées, cette rencontre a été définitivement annulée selon l'annonce faite par les fédérations des deux pays. La Confédération brésilienne de football et l'Association du football argentin et la FIFA ont réglé le litige devant le tribunal arbitral du sport, indiquent deux communiqués distincts des deux fédérations. Ce choc, initialement programmé le 5 septembre 2021 à Sao Paulo, a été interrompu après seulement 5 minutes de jeu sur intervention des autorités sanitaires locales. 4 joueurs de l'Albicéleste, évoluant alors en Angleterre, étant accusés de violer le protocole anti-Covid. En avril, la FIFA avait décidé que le match serait rejoué le 22 septembre, mais les deux sélections, qualifiées pour le mondial sans la moindre défaite, n'ont jamais affiché leur volonté de rejouer ce match sans enjeu purement sportif.
Ryan Giggs assure n'avoir jamais agressé de femme.
C'est ce qu'affirme l'ancienne star de Manchester United qui dit n'avoir pas commis de violence contre des femmes lors de son procès. Pour violence conjugale, Ryan Giggs, qui entraînait jusqu'à récemment l'équipe nationale du pays des Galles, est accusé par son ancienne compagne Kate Greville. Celle-ci assure qu'en novembre 2020, il lui a donné un coup de tête et a asséné un coup de coudre dans la mâchoire de sa sœur qui était intervenue. Ryan Giggs a plaidé non coupable. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, Ryan Giggs risque jusqu'à 5 ans de prison. Comme joueur, Giggs a remporté 13 titres de Premier League et 2 Ligues des Champions avec les Red Devils. Il avait été nommé en janvier 2018 sélectionneur de l'équipe galloise qui l'a mené en 8e de finale du dernier Euro l'an passé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Kenya, Raila Odinga a rejeté les résultats de l'élection présidentielle du 9 août, donnant vainqueur son rival William Ruto. Monsieur Odinga a qualifié ces résultats de parodie et a promis de poursuivre toutes les options légales à sa disposition. Claire Morin-Gibourg a joint l'auteur du livre « Le Kenya en marche », Christian Thibon, qui n'est pas étonné par cette situation.
C'est un scénario attendu dans la mesure où il se répète à chaque consultation électorale, tant au niveau des présidentielles que pour les autres élections, c'est-à-dire les élections provinciales, les parlementaires, les gouverneurs. Il y a en règle générale 20% de contentieux. Donc on est dans une situation qui est normale quand on la compare aux précédentes consultations électorales.
Alors c'est déjà arrivé par le passé, la Cour suprême a invalidé les résultats. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible aujourd'hui?
Tout est possible dans la mesure où au Kenya, l'indépendance de la justice, disons les personnalités qui sont en poste à la Cour suprême sont suffisamment importantes pour prendre des décisions contre la tendance dominante. Hein. Donc on est dans un scénario là aussi qui est probable, c'est-à-dire que la Cour suprême prenne des décisions peut-être invalidées, pas nécessairement dans la mesure où il y a, à la différence des fois précédentes, il y a des données concernant les élections qui sont beaucoup plus crédibles que dans les cas précédents.
Vous connaissez bien le pays, vous y allez régulièrement. Est-ce que la situation d'aujourd'hui peut aboutir à une nouvelle crise majeure dans le pays, selon vous?
Alors, la population participe aux mobilisations politiques, mais en réalité, elle prend de plus en plus de distance par rapport aux engagements politiques. Il y a là une maturité politique que l'on a observée déjà en 2013-2017 et que l'on observe aussi au travers de comportements comme l'abstention électorale qui montre que les gens se méfient des manipulations politiques parce qu'ils savent qu'effectivement, ce sont des violences qui aboutissent généralement à un accord sur la base de rapports de force et qui sont des violences qui se font au détriment de la population.
Vous êtes plutôt rassuré par rapport aux précédentes crises. Raila Odinga a toutefois une personnalité qui, par le passé, a un petit peu entraîné des mouvements de foule extrêmement dangereux.
Oui, l'histoire de Raila Odinga, c'est l'histoire d'une contestation politique qui a été à la base, on pourrait dire, des changements démocratiques du Kenya. Donc il est toujours dans cette logique, on pourrait dire, contestataire des années 90 et 2000, qui ont fait son aura, qui ont fait son prestige. Aujourd'hui, effectivement, la situation a changé. La distance de l'opinion publique vis-à-vis de Raila Odinga est assez prégnante. Donc ça sera pour lui difficile de tenter de mobiliser. Est-ce qu'il en a aussi la volonté? C'est aussi un homme d'État qui a conscience des dangers que les violences peuvent entraîner.
C'était Christian Thibon, professeur d'histoire à l'université de Pau et spécialiste du Kenya.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la victoire de William Ruto à la présidentielle kenyane face au vétéran de la politique Raila Odinga. Le vice-président, âgé de 55 ans, n'a pas obtenu le soutien de son patron, le président Uhuru Kenyatta, qui a préféré jeter son dévolu sur son ancien rival. En attendant la confirmation ou non de sa victoire par la justice, Ruto a promis de travailler avec tous les leaders politiques. Les appels au calme se multiplient dans ce pays qui a déjà vécu des crises post-électorales sanglantes. Pour tirer les enseignements de ce scrutin qui sont importantes pour la région, rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, VOA.
En RDC, ouverture ce matin à Kinshasa du 42e sommet de la SADC, la Communauté de développement des pays d'Afrique australe. 15 chefs d'État et de gouvernement de la sous-région prennent part à ce sommet. C'est le président Félix Tshisekedi de la RDC qui va prendre la tête de cette organisation à l'issue du sommet de Kinshasa. De quoi parleront les chefs d'État? Précision de notre correspondant à Kinshasa, Alex Katikatayi.
La dizaine de chefs d'État présents à Kinshasa débattra autour des questions économiques et sécuritaires dans la sous-région. Ce 42e sommet de la SADC a pour thème promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des ressources minérales et des chaînes de valeur régionales pour un développement inclusif et résilient. Il serait difficile de parler développement et croissance économique sans la paix, estime l'analyste politique Dadi Léonard Kayumbi.
Vous savez que la SADC a une mission, en fait, de la promotion de la croissance économique dans le pays de l'Afrique australe. On ne peut pas accroître l'économie sans passer par la paix. J'attends de la SADC, dans son volet de la croissance économique, de passer d'abord par la pacification de l'Est, puisque nous en avons l'expérience. En 1998, avec Mzé, cette mission de la SADC a eu à stopper net l'évolution de groupes armés dans le temps, en l'occurrence le RCD et autres.
Lors de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement feront le point sur les progrès réalisés conformément aux aspirations de la SADC définies dans son plan indicatif régional de développement stratégique 2020-2030 et sa vision pour 2050. La SADC envisage une région industrialisée, pacifique, inclusive et compétitive à l'horizon 2030. Dans le volet pacification, la RDC compte plaider pour l'implication de la SADC dans la résolution du conflit dans sa partie orientale. Didier Manzenga, ministre congolais de l'intégration régionale.
Pendant une année que nous allons prendre la présidence, en tête avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, nous allons continuer à plaider au niveau de la SADC pour l'accompagnement. L'accompagnement de la SADC pour que la République du Congo trouve la paix et la République du Congo trouve la sécurité au niveau de tous les territoires, toutes les villes.
Les travaux de ce sommet qui s'ouvre ce mercredi matin se poursuivront à huis clos toute la journée. Plusieurs résolutions sont attendues le soir. À l'issue de ce sommet, c'est le président Tshisekedi de la RDC qui prendra la tête de cette organisation sous-régionale pour un mandat d'un an. Il remplacera Lazarus Chakwera du Malawi. Alex Katikatayi, Kinshasa, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Togo, le prix de la bouteille de gaz butane connaît une hausse de plus de 73%. C'est la consternation chez les consommateurs qui ne comprennent pas cette importante hausse. Les associations des consommateurs dénoncent une augmentation inopportune et demandent au gouvernement de rapporter cette décision. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousso.
C'est avec une certaine surprise que Assitan a découvert les nouveaux prix alors qu'elle allait recharger sa bouteille de gaz butane de 12 kilos. Elle n'en revient toujours pas.
Il se passe que je n'avais pas remarqué le changement de prix. Je finis de charger ma bouteille et je remets 6500 francs. C'est là que le vendeur me regarde et me demande si je n'étais pas au courant du changement de prix. C'est lui qui m'informe que c'est désormais 11 300 francs. C'est carrément le double de ce que nous payons. C'est trop cher.
Les nouveaux prix proposés par les sociétés de commercialisation et entérinés par le gouvernement connaissent une hausse de 73%. Les bouteilles de 6 kilos sont passées de 3 120 francs CFA à 5 400 francs CFA et celles de 12 kilos se vendent désormais à 11 300 francs CFA contre 6 500 francs CFA auparavant. Dame Akou, commerçante à Lomé qui utilise plus d'une bouteille de gaz de 12 kilos dans le mois, avoue ne pas pouvoir continuer par utiliser le gaz butane.
Désolé, mais ça va devenir difficile pour moi de dépenser 22 600 francs par mois pour le gaz domestique. Nous achetons parfois jusqu'à 3 bouteilles par mois puisque nous sommes nombreux dans la maison. Donc si c'est comme ça, on va aller jusqu'à 30 000 francs. Je crois que je vais reprendre les vieilles habitudes
avec le charbon de bois.
Les associations de défense des consommateurs sont vent debout et dénoncent cette hausse des prix du gaz domestique. Freddy Dounia est le porte-parole des associations des consommateurs.
En cette période de vie chère, il est regrettable de constater que le gouvernement cautionne la révision à la hausse d'un produit d'aussi grande consommation comme le gaz. Force est de constater qu'à ce jour, le prix du gaz butane au Togo devient le plus élevé dans la sous-région avec une tentative de libéralisation du secteur et de suppression de la subvention.
Emmanuel Sogadi, le président de la Ligue des consommateurs du Togo, estime que la hausse des prix de la bouteille de gaz domestique va à l'encontre de la politique de reboisement initiée depuis l'année dernière par le gouvernement. Le gouvernement togolais a l'ambition de renforcer son couvert végétal avec 1 milliard d'arbres plantés d'ici 2030. La propension des Togolais à recourir désormais au bois de chauffe ou au charbon de bois va certainement mettre en cause cette politique de reboisement. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
À Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, une région aurifère frontalière du Mali et de la Guinée, est exposée à l'orpaillage artisanal par des jeunes de plusieurs pays africains. L'exploitation artisanale de l'or affectant gravement l'environnement et le mode de vie des populations, les acteurs des villages et collectivités locales de la région de Kédougou déplorent la situation actuelle et demande à l'État sénégalais de soutenir les jeunes dans le domaine de l'agriculture afin d'enrayer ce phénomène d'orpaillage artisanal. Un reportage de notre envoyé spécial à Kédougou, Nama Diara.
Les sites d'orpaillage du village de Silakunda, à une trentaine de kilomètres de la ville de Kédougou, est pris d'assaut par des jeunes orpailleurs venus de pays comme le Mali, la Guinée ou le Burkina Faso. La forêt de Silakunda, les trous d'orpaillage sont visibles partout et les arbres sont abattus par les jeunes mineurs pour chercher de l'or. Pour le représentant du chef du village de Silakunda, Bakara Mogo Soare, ces jeunes ont abandonné l'agriculture au profit de l'orpaillage car ils n'ont aucun soutien de l'État.
L'agriculture est à terre dans la zone parce que l'orpaillage entraîne de prendre l'ampleur. Les jeunes n'ont pas d'autres moyens, il n'y a pas de soutien de l'État. Quand les jeunes ont d'autres moyens ou ont d'autres projets à financer par l'État, je crois que peut-être l'orpaillage va être diminué par les jeunes.
Pour faire face à ces phénomènes d'orpaillage artisanal dans la région de Kédougou, le maire de la ville de Dimboli, Fodé Keïta, demande plutôt l'implication des communes dans la gestion des ressources minières.
L'orpaillage, les mines, ce n'est pas une compétence pour l'instant transférée aux communes. Mais ce que nous voyons aux communes, ce que nous suggérons à l'État, qu'il y ait l'implication des communes dans la gestion de nos ressources naturelles, à savoir les mines. Mais les grandes sociétés qui sont au niveau du département de Kédougou, à savoir Teranga Gold, à savoir PMC de Simako. C'est des sites qu'on octroie au niveau du ministère sans d'abord le consentement des communes, disant que vraiment celui qui a cette zone. Vous voyez ce que ça fait? C'est un peu compliqué.
L'exploitation artisanale de l'or par des jeunes a été exposée à l'État du Sénégal tous les temps, mais il n'a jamais réagi, selon Bakara Mogo Soare.
On a de bonnes terres ici, tout le temps. Bon, c'est exposé depuis longtemps, c'est pas maintenant que la première fois, c'est exposé longtemps aux côtés des jeunes. Parce que tu as vu des centaines d'immigrations qui font dans cette zone-là, sur la France ou en Espagne, c'est parce qu'il n'y a pas de soutien de l'État. L'État ne fait rien dans ces zones.
Le maire de Dimboli, Fodé Keïta, suggère pour sa part que l'État sensibilise les jeunes aux conséquences de la pratique de l'orpaillage artisanal sur les terres cultivables.
Que l'État prenne ses responsabilités, d'abord dans le sens de la sensibilisation, dire que cette exploitation-là, aujourd'hui vous pouvez en trouver quelques kilos d'or, mais dans le futur, pour vos enfants, vos petits-enfants, vous trouverez que le sol est dégradé. Vous ne pouvez pas y pratiquer l'élevage, vous ne pouvez pas y pratiquer l'agriculture, parce que ces zones d'orpaillage, mais une fois sorties de ce site, vous pouvez rester un siècle sans pouvoir vraiment exploiter ce site-là. Et peut-être les former dans le domaine de l'agriculture, les doter en matériel. Il y a ça aussi, parce que quand il y a quelqu'un, arrête, il faut lui proposer quelque chose.
Quant à la nouvelle gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, installée dans ses fonctions il y a à peine un mois, indique qu'elle n'a pas beaucoup de détails sur les dossiers de l'orpaillage. Mais elle n'a pas manqué d'annoncer des mesures déjà prises par l'État pour faire face à ces phénomènes, comme la descente des patrouilles des forces de l'ordre dans les sites d'orpaillage. Nama Diarra, depuis Lakunda, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.